au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Jeudi 5 février, enfin du soleil, ça fait du bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec Jacques Plante. On va parler des petits amis de Pablo Rodriguez là, qui quitte le Parti libéral du Québec. On aura avec nous la sergente Sabrina Carbonneau de la Sûreté du Québec. Il sera question d'une campagne de sensibilisation des ados à la criminalité. Marc-André Ouellet sera avec nous. Il est du mouvement Québec. Québec Innovant là, qui vient de rendre public un manifeste à l'approche des élections. Mais tout d'abord, ça va de mal en pis pour la CAQ, les candidats à la succession, François Legault, Bernard Drinville et Christine Fréchette, qui s'attaquent mutuellement sur la place publique. Ce qui, prime abord, pourrait laisser croire là, qu'il sera difficile de convaincre les électeurs là, d'acheter des cartes de membres de la CAQ. Et François Morin en discute avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Effectivement, présentement, on montre un parti qui est divisé, ce qui est jamais l'image qu'un parti souhaite montrer, surtout pas un parti de gouvernement. Parce que c'est ce qu'on vit justement ces jours-ci. Lorsqu'on est au gouvernement, ben non seulement on a la pression populaire, mais en plus, ben les travaux parlementaires continuent présentement. Il y a encore la période des questions. Et lorsque un candidat ou une candidate, et c'est ce jour-ci surtout un candidat, M. Drinville, remet en question les ajustements de la CAQ dans les dernières années, ben ça soulève vraiment la porte à ce que des députés de l'opposition questionnent le gouvernement justement sur les ajustements de la CAQ. Et donc ça fait des situations assez particulières présentement où la CAQ doit se défendre en paire des questions contre la CAQ elle-même, c'est-à-dire contre Christine Fréchette et Bernard Drinville. Mais en même temps, c'est un peu inévitable dans le sens où s'il y a une course à la chefferie, et surtout, on a soit mentionné ensemble, une course à la chefferie dans un contexte où le gouvernement est très impopulaire, ben forcément, les personnes candidates à la chefferie ben sont tentées de marquer une rupture par rapport à ce qui se passe actuellement. Et ce qui ouvre donc tout à fait là la porte à ces attaques-là des partis d'opposition aussi. On voit que tout le monde dans le parti n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. En même temps, c'est pas une surprise, c'est jamais vrai dans une formation politique que tout le monde est sur la même longueur d'onde, même si, surtout lorsqu'un parti est au gouvernement, les ministres ont solidarité ministérielle oblige justement l'obligation de défendre les positions du gouvernement ensemble. Mais là, on voit les fractures émerger un peu plus. Effectivement, ça fragilise la position de la coalition Avenir Québec sur la place publique, et on peut imaginer dans l'opinion publique, ou peut-être, et c'est peut-être le pari que vont faire Mme Fréchette et M. Drinville, en marquant une rupture comme ça, peut-être ça va permettre à ce que la CAQ, lorsque la prochaine personne va être choisie comme chef, de pouvoir tourner la page et que des électeurs et des électrices vont dire « Bon, mais ce n'est plus la CAQ que je n'aimais pas, c'est maintenant une nouvelle CAQ et peut-être que celle-ci, je vais l'aimer. » Donc, à court terme, ça fait mal. À moyen long terme, ça reste à voir. C'est le pari de peut-être être capable de faire tourner l'opinion publique en faveur de la CAQ de nouveau.
On s'en est parlé il y a quelques jours, le troisième lien du côté de Québec qui s'invite de nouveau dans le débat. Et là, François Legault, qui avait quand même promis de pas se mêler de la course au leadership en se prononçant concernant le troisième lien, vient ajouter de l'huile sur le feu.
Ce que les gens n'ont pas aimé dans ce dossier-là, encore les tergiversations, encore les chicanes là-dessus, encore on ne sait pas si ça va vraiment avancer ou pas ce dossier-là. Ce qui fait que tant les partisans d'un troisième lien que ceux qui sont hostiles à ce projet de loi-là, ben demeurent dans leur frustration présentement. Bernard Drinville qui maintient son appui au troisième lien, c'est pas étonnant. On sait qu'à l'époque, il y tenait beaucoup et son opinion n'a pas changé. Madame Fréchette, qui faisait partie de ce gouvernement-là aussi, et comme Bernard Drinville l'a rappelé, et François Legault, qui était candidate pour cette formation politique-là, c'était une promesse importante, une promesse phare de la CAQ, le troisième lien. Maintenant, dit qu'elle veut l'analyser. Certains des critiques de Mme Fréchette disent que ça fait quand même plusieurs années maintenant que le gouvernement du Québec analyse ce dossier-là. François Legault, effectivement, qui s'en mêle en disant « Mais non, tout le monde est pour ça ». C'est encore la difficulté qu'on a présentement du fait qu'il y a une course à la chefferie, qu'il faut pouvoir débattre des différents éléments, mais en même temps, ben le chef et le chef fondateur, ce qui est pas peu dire, demeure en fonction, demeure premier ministre, c'est encore son gouvernement qui doit encore livrer des choses. François Legault dit qu'il ne veut pas que son gouvernement soit sur pause, mais on voit que de plus en plus, il l'est du moins dans les faits. Pas complètement sur pause, là, le gouvernement continue toujours à fonctionner, mais au ralenti, les nouvelles initiatives en particulier, c'est ce que le ministre des Transports, Jonathan Julien, a expliqué, qu'il pouvait plus difficilement présentement aller en appel d'offres ou aller voir les entreprises privées pour voir leurs intérêts à soumettre pour ce projet-là de troisième lien, étant donné que ben présentement, il y a des interrogations à savoir si, par exemple, c'est Mme Fréchette qui remporte la course à la chefferie et qui devient première ministre, est-ce qu'elle va maintenir ce projet-là en place ou pas? Donc, concrètement, ne sachant pas qui va être premier ministre ou première ministre dans les prochains mois, et après ça, comme il y a les élections qui vont s'en venir au plus tard cet automne, ben tout ça ralentit, c'est sûr, toute la machine. C'est ce qu'on voit présentement. Et ça doit être frustrant pour M. Legault de voir qu'il est devenu un canard boiteux et qu'il perd le contrôle de sa formation politique et de son gouvernement. Mais c'est la situation, c'est le constat froid des choses actuellement, où ça devient très difficile pour lui de faire avancer les choses. Et que même s'il dit, ben tout le monde maintenant, on appuie le troisième lien, mais son autorité commence comme chef démissionnaire, son autorité commence à s'effriter aussi. Et donc, bon, on va voir qu'est-ce que Mme Fréchette va dire au cours des prochains jours concernant le troisième lien. Mais c'est difficile pour les électeurs, pour les électrices, de faire confiance à la CAQ là-dessus. C'était déjà excessivement difficile depuis les changements qu'il y a eu pour le troisième lien au courant des dernières années. Ça fait juste rajouter une couche de plus. Et ça rend le projet excessivement politiquement toxique. Ça demeure vrai.
Je voudrais revenir en terminant sur la course au leadership comme telle, compte tenu justement des positions de la bisbille évidente entre les deux candidats. Ça va être difficile de vendre des cartes.
Il y a des débats, et c'est à ça que ça sert une course à la chefferie. On a déjà vu des courses à la chefferie par le passé où tout le monde est d'accord, tout le monde dit un peu la même chose. Ça, c'est les courses à la chefferie qui sont peu intéressantes, où finalement, tout ce qu'on propose, c'est une personnalité. Madame Fréchette, pour l'instant, comme c'est souvent le cas pour les personnes qui semblent mener une course à la chefferie, se mouille relativement peu. On veut pas trop faire bouger le bateau lorsqu'on a l'impression qu'il nous amène à bon port de toute façon. Mais comme M. Drainville a décidé, lui, d'aller à l'attaque, ben on voit des débats qui commencent à émerger. Et en ce sens-là, mais ça peut motiver des gens à dire, ben je veux vraiment que ça soit les caquistes, je veux vraiment que ça soit mon candidat ou ma candidate qui gagne, donc je vais aller m'acheter une carte de membre. Dans le contexte particulier où la personne qui va être choisie pour diriger la CAQ va aussi devenir première ou premier ministre pour au moins quelques mois, ben dans ce contexte-là aussi, c'est un vote qui est d'autant plus important pour le Québec.
Réussirons-nous à attirer de nouveaux membres à la CAQ? Ça, c'est la grande question. Et entendre Mathieu Bélanger, notre analyste politique avec qui François Morin a discuté, il en coûte quoi? 15 $ pour être membre de la coalition Avenir Québec, donc pour voter pour votre favori, que ce soit Bernard Drainville ou Christine Fréchette. Il y a quoi? À peine 11 000 membres. C'est pas beaucoup, là. 11 000 membres environ, là, pour la coalition Avenir Québec. J'imagine que dans cette course à la chefferie, on essaiera d'aller chercher de nouveaux membres. Dans un moment, on a pour vous une entrevue avec Marc-André Ouellet, du Mouvement citoyen Québec innovant, qui refait surface à quelques mois des élections générales.
Cet hiver, vivez pleinement le grand air à la pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie. Découvrez le village de pêche sur glace avec 25 cabanes chauffées et aménagées pour votre confort. Amusez-vous en famille avec les glissades, la mini-ferme et partez à l'aventure sur le sentier de raquettes. Et après cette journée bien remplie, réchauffez-vous autour d'un bon repas dans le restaurant convivial où ambiance chaleureuse vous attend. La pourvoirie Auberge La Barrière à Sainte-Émilie, c'est aussi votre relais automne et grande nouveauté cette année, relais pour quad. La pourvoirie Auberge La Barrière, une belle façon de vivre l'hiver. Et pour être certain de ne rien manquer, suivez La Barrière sur Facebook.
chez Fromagerie Victoria. Nos déjeuners sont débordants en plus d'être à petit prix. Servis jusqu'à 11h en semaine et jusqu'à 13h les week-ends. Ça commence bien la journée. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromée. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Ambroise de Kildare, Garage Omer Grégoire, dépanneur au Petit Bourgeois, dépanneur Kildare, dépanneur Proxy Extra, à Sainte-Béatrix, boulangerie Sainte-Béatrix, le dépanneur Lac-Vallée enregistré, à Saint-Ligory, dépanneur des Rapides, à Lanoraie, dépanneur Cinq-Montagnes, dépanneur La Fortune et Filles, Family Prix Julie Bourgeois, à Saint-Thomas, Arnois Proxy Saint-Thomas, Family Prix Santé Coulombe et Parents, et à La Valtrie, dépanneur Buissière et dépanneur Bonissoire sur la rue Notre-Dame. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu. CFNJ.
Lanaudière PM. Politique provinciale.
16h18, le mouvement citoyen Québec innovant refait surface à quelques mois des élections générales et rend public un manifeste qui vise à convaincre l'électorat qui est temps de voter pour une formation qui va vraiment faire de la politique autrement. Et François Morin s'est entretenu avec le cofondateur Marc-André Ouellette.
Bien, à la base, là, faut expliquer qu'on est des citoyens qui se sont impliqués pendant plusieurs années dans différents mouvements. Puis on écrit des ouvrages qui peuvent être sur des enjeux qui concernent tout le monde, comme la santé, l'éducation, puis notre système politique. Puis au fil des années, ben, on a parlé avec des anciens élus de différents partis politiques. Puis le problème qu'il y a, c'est un nœud, là, un gros enjeu qu'il y a, c'est au niveau de la façon de faire la politique. Puis là, je parle pas juste de la dynamique à l'Assemblée nationale où est-ce qu'il y a beaucoup d'empoignades, des occasions ratées là, de faire plus de consensus, développer des projets de loi mieux réfléchis, mieux débattus, là, que ce soit en économie, en environnement ou autre. Là. Puis il faut moderniser la façon de travailler à l'Assemblée nationale et aussi il faut faire en sorte que nos élus au provincial passent plus de temps dans leur circonscription. La première ligne pour les citoyens, c'est le municipal, puis il y a un certain disconnect, malheureusement, là, entre le provincial et les circonscriptions. Je dis pas que tout est négatif, mais il y a beaucoup de travail à faire, fait qu'on parle de différentes réformes pour rendre nos élus plus proches des citoyens, faire des redditions de comptes sur qu'est-ce qui va se passer avec l'hôpital, les infrastructures, l'habitation, le travail, l'immigration. Puis, fait que nous, le manifeste, en gros, là, il parle de moderniser la façon de faire de la politique pour faire jaillir les talents. Fait qu'on a une drôle d'approche. On n'est pas comme un parti traditionnel. On veut vraiment rehausser la qualité des débats des différents partis, des différents élus pour mieux répondre aux besoins de la population.
Avouez qu'il y a un gros travail de persuasion à faire auprès de l'électorat. C'est pas la première fois qu'on entend ça, de vouloir faire de la politique autrement. Et plus souvent qu'autrement, justement, ça s'est pas vraiment matérialisé.
Bien, ce qui est tragique, là, puis ça, c'est, je vais vous donner un exemple avec la CAQ. En 2018, François Legault avait demandé à Simon Jolin-Barrette de mettre sur pied un rapport qui amène des recommandations pour rendre les élus plus efficaces, plus imputable, moins de promesses en l'air comme le troisième lien, par exemple, ou les maisons des aînés ou les maternelles 4 ans. Plusieurs éléments là qui moderniseraient la façon de faire la politique. Puis deux ans plus tard, Jeanne Barrette dépose un beau document avec plus de 40 recommandations et presque rien s'est fait depuis 5-6 ans. Fait que vous avez raison, là, il y a eu des occasions ratées, il ne manque pas d'idées, mais le problème, franchement, c'est un manque de volonté. Puis nous, ben, on remet ça de l'avant, dans l'espoir là, de pouvoir au minimum influencer même les autres programmes des partis politiques. Puis idéalement, si on est chanceux, on va avoir des candidats de qualité qui vont avoir une chance d'être élus, puis qui vont pouvoir incarner ce changement-là, puis pousser constamment auprès des élus des réformes qui rendraient leur travail plus efficace puis mieux adresser les enjeux auxquels on fait face.
On sent
que c'est pas évident. Ce sera pas évident.
On s'entend qu'on est à 9 mois des élections. Est-ce qu'il y a un travail terrain qui s'amorce pour justement là, vous faire connaître davantage?
Ben, le manifeste fait partie de nos séries d'initiatives pour parler avec des gens. On a ciblé quelques circonscriptions dans la Nodière, mais on a plus ciblé l'Assomption, qui est l'ancienne circonscription de François Legault. On a tendu des lignes à l'eau. Il y a des gens intéressants là qui trouvent que ça fait du sens ce qu'on fait, mais pour différentes raisons, ils veulent pas s'embarquer, mais on fait travailler notre réseau. Puis là, le manifeste, ça fait partie d'une série. Là, on le diffuse. On espère que ça va faire des petits. On a d'autres documents qui vont sortir dans les prochaines semaines. Puis nous, tout ce qu'on peut faire, là, c'est ouvrir la porte. Il y a des gens qui nous écoutent, là, peu importe la circonscription, qui aiment leur qui connaissent bien des dossiers, ils se retrouvent dans nos valeurs là, après avoir consulté notre site web. Ben nous, on est en discussion, puis on va espérer de présenter là, plusieurs candidats là, les prochains mois.
Est-ce qu'il est possible de le consulter quelque part, le manifeste?
Oui. Le manifeste, là, le mieux, c'est d'aller sur le site de québecinnovant.org. Puis, il est sur la première page, mais aussi un onglet là, manifeste. Ils peuvent lire ça. On propose des différentes réformes, comme j'ai mentionné, les assemblées locales. Là, de plus. Nous, on veut que les élus rencontrent leurs concitoyens 4 fois par année. On veut évidemment réformer le mode de scrutin, on veut moderniser l'Assemblée nationale là, avec revoir la période de questions, les commissions parlementaires, ainsi de suite. Plus de commissions spéciales, comme c'est la plus populaire qui était sur l'aide médicale à mourir. Il y en a eu juste 7 depuis 1984, on en veut plus. Puis, évidemment, on a des propositions, des chantiers sur éducation, santé, économie, environnement et autres. Fait que oui, le mieux, c'est d'aller sur le site, consulter ça, puis nous contacter si ça vous interpelle.
En terminant, en prévision du scrutin général, est-ce que vous allez quand même avoir les moyens de vos humbles ambitions?
À court terme, on a une approche réaliste. On a un angle d'approche qui est complètement différent des partis traditionnels. À quoi j'en ai, c'est que nous, si on met dans l'espace public des propositions de réforme qui font du sens, qui sont appréciées, et même on en a contre-vérifié avec des anciens élus de différents partis politiques, puis ils disent « ben oui, c'est logique ». Oui, ça fait du sens. Fait qu'on sait très bien que si on influence les programmes des principaux partis, on va être satisfait. Mais il faut qu'on présente quand même des candidats pour exercer une pression. Et si on est chanceux, on pourrait avoir une couple de, j'appellerais ça des diplomates ou des agents de changement qui seraient à l'Assemblée nationale avec un autre mandat. Ils seraient toujours là pour essayer d'améliorer les choses, puis de créer des consensus, puis une collaboration. Moins d'électoralisme, moins de partisanerie, moins d'attaques stériles.
Voilà, c'était Marc-André Ouellette et les représentants officiels de ce nouveau parti Québec innovant qui a été autorisé par le directeur général des élections du Québec le 3 avril 2024. Bien entendu, tous les nouveaux partis politiques veulent toujours faire de la politique autrement. Rappelez-vous de la CAQ au début, puis lorsqu'ils prennent le pouvoir, ben on oublie tout ça. En tout cas, espérons. On souhaite bonne chance à Québec innovant. Espérons qu'ils feront vraiment de la politique autrement. Ailleurs dans l'actualité, lueur d'espoir pour la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Le gouvernement caquiste qui accepte de permettre à l'entreprise Glencore de maintenir ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube pendant 7 ans. Québec qui souhaitait auparavant que la fonderie de cuivre abaisse ses émissions à 3 nanogrammes par mètre cube. Le président du syndicat des travailleurs de la mine Noranda, Sean Smith, espère un déblocage rapide car l'incertitude le pèse lourd présentement là, sur ses membres. On l'écoute.
En ce moment, là, les travailleurs, ils ont tellement de pression, OK, sur les épaules à savoir qu'est-ce qui va leur arriver. En Abitibi, là, t'en as pas beaucoup d'opportunités comme celle-là. Donc, de voir tout ça s'écrouler, de voir l'impact familial que ça va avoir, les gens, l'anxiété est à son comble.
Le syndicat qui représente les travailleurs de la Société des alcools du Québec qui livre déjà des bouteilles d'alcool dans les restaurants et les succursales, la SAQ, demande l'intervention du ministre des Finances pour annuler le contrat avec Uber Eats, la SAQ qui a annoncé, il faut rappeler, son projet pilote avec Uber Eats, une entreprise américaine, pour la livraison de 150 produits sur l'île de Montréal à partir de la fin février. Et là, on parle des deux côtés de la bouche à la SAQ parce qu'on a retiré tous les produits américains des tablettes, mais là, on fait affaire avec une compagnie américaine pour faire de la livraison. Ça fait comme pas de sens. Il y a le président de la section locale du SCFP, Danick Soucy, qui soutient que les 1100 travailleurs des centres de distribution de la SAQ qui les représentent là, sont pourtant là, en mesure de livrer à domicile.
Nos membres, nos livreurs là, sont habitués de faire de la livraison avec le public, puisqu'ils vont dans les restaurants, dans les succursales, puis qui sont prêtes là à travailler, à faire la livraison à domicile, puis que c'est une façon aussi là d'éponger des pertes d'emplois avec des salaires décents qu'on va subir là avec l'automatisation qui s'en vient.
Bon, voilà, il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est plutôt dense à partir du boulevard du Tricentenaire et ça jusqu'à environ 500 mètres. Passé le boulevard Henri-Bourassa, on traverse facilement la rivière des Prairies. 40 Est, Repentigny, ouais, dans l'ensemble, c'est quand même assez facile. Je dois vous mentionner que la montée de l'Épiphanie, la 341, là, c'est très, très lourd actuellement entre la 40 et la rivière L'Assomption. Du côté de Brien aussi, là, passablement lourd en ce moment, là, en direction du secteur Le Gardeur. Maintenant, Pont-Le Gardeur, facile par Notre-Dame et Sherbrooke, la 25 Nord, c'est dense, secteur de la jonction avec la 440, nombreux là, jusqu'à la hauteur du boulevard des Belles-Îles. Du côté de l'Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, oui, ça va bien de ce côté-là. Pont-Sophie-Masson, oui, c'est pas si mal en ce moment, un peu dense à l'approche. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction est, c'est lourd depuis environ 500 mètres avant la montée des Pionniers. Direction ouest, là, pas si mal, malgré qu'on était un petit peu plus nombreux là, dans le secteur de la montée du Mai. Les nouvelles dans un moment avec Pierre Jubinville. Ouais.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. La toute nouvelle Nissan Leaf 2026 est arrivée en concession. Avec son tout nouveau design et possédant une grande autonomie, elle vous convaincra certainement de prendre le virage vert. Venez l'essayer en concession ou commandez la vôtre pour bénéficier de taux d'intérêt à 0% à la location et un rabais pouvant aller jusqu'à 3 000. N'attendez plus. Passe en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapel longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Le Festival Saint-Combe-en-Glace se poursuit et ça promet pour un week-end spectaculaire. Vendredi 6 février de 18h, viens danser durant la Disco des Neiges à la patinoire du Centre de loisirs Marcel Thériault. Samedi 7 février, rendez-vous au Parc de l'Harmonie. Spectacle de Jeanne Héry à 12h30, atelier d'initiation à la sculpture sur glace de 13h à 16h, puis Martin Levac en spectacle dès 14h30. À 16h, ne manque pas la grande soirée Feu et glace, concours de sculpture, DJ canot volant et feu d'artifice. Et dimanche 8 février, déjeuner, activité familiale et spectacle de Daniel Alejandro à 13h. Saint-Combe, c'est là que ça se passe. CFNJ sera sur place.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Didas-des-Panneurs-des-Lacs. à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'actualité de ce jeudi 5 février en manchette. Retour des incitatifs pour s'acheter un véhicule électrique. Sibi Flamand, chef de Manawan, se voit refuser l'entrée au Parlement de Québec et finit les études collégiales à la prison pour femmes de Joliette. Ouais, tout d'abord, Pierre Jubinville, un incident qui a marqué les travaux parlementaires là, sur la loi 1.
Ouais, on peut parler d'incident diplomatique. La commission parlementaire se penche sur la constitution, le projet de constitution pour le Québec. Le chef Atikamekw de Manawan, Sibi Flamand, a été empêché d'entrer dans la salle parce qu'il arborait des objets sacrés de la communauté. Il a parlé d'un autre exemple de racisme systémique. Il a eu cette réaction.
Et encore là, ce qui s'est passé aujourd'hui, on a amené nos objets sacrés en guise de décorum. Et ces parlementaires-là n'ont pas reconnu cette réalité-là. Ce sont des objets sacrés qui nous sont chers, qui nous portent nos valeurs. C'est notre histoire, c'est notre territoire, toute notre philosophie vient de là, notre pensée politique, nos actions. C'est avec ces objets-là qu'on marche pour nos peuples.
Le chef flamand était tenu à l'extérieur de la salle de sorte qu'il n'a pu participer aux travaux.
C'était pas une arme, c'était pas un tomahawk, là, c'était vraiment.
Non, puis c'est des choses qu'ils arborent.
Oui, exactement. Des objets sacrés, on parle de plumes, et puis. C'est ça. Bon.
Enfin.
Retour des subventions pour l'achat de véhicules électriques.
Oui, ce sera de nouveau subventionné au Canada pour 5 ans. Mark Carney a dévoilé aujourd'hui la nouvelle stratégie fédérale pour l'industrie canadienne de l'automobile. On écoute Stéphane Boucher.
Mesure phare, une subvention jusqu'à 5 000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique de moins de 50 000 $ et jusqu'à 2 500 $ pour un hybride rechargeable. Un programme de 2,3 milliards de dollars sur 5 ans qui entre en vigueur le 16 février. Des incitatifs, espère le gouvernement fédéral, qui stimuleront la fabrication et la vente de véhicules zéro émission, le premier ministre Mark Carney.
Ces nouvelles mesures forment une nouvelle stratégie qui permettra à notre industrie automobile de faire du Canada une chef de file mondiale de la production de véhicules électriques.
Ottawa annonce également la fin des quotas pour les constructeurs, mais des normes plus strictes en matière d'émissions. 1,5 milliard de dollars seront également investis dans le développement du réseau national de bornes de recharge, un bouquet de mesures qui vise à réduire la dépendance de l'industrie automobile canadienne envers les États-Unis.
Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler.
Stéphane Boucher, Cogeco Nouvelle.
Bon, Pierre, une nouvelle qui m'a fait un peu sursauter aujourd'hui. Fini les études collégiales dans 2 pénitenciers fédéraux. On parle entre autres de Joliette, là.
Ouais, c'est une autre décision questionnable. Les détenus ne pourront plus suivre d'études collégiales. On va s'en tenir aux études primaires et secondaires. Ce sont des professeurs du cégep Marie-Victorin qui dispensaient des cours à la population carcérale à Coansville et à la prison pour femmes de Joliette. Le service correctionnel du Canada a annoncé la semaine dernière l'interruption dès le 30 juin du financement de la formation collégiale. Il y a le directeur général du cégep Marie-Victorin, Louis Gendron, qui dénonce cette décision. Il la qualifie de courte vue et décevante. Il rappelle qu'une des missions des pénitenciers est justement de préparer les personnes incarcérées à retourner dans la société.
Mais justement, c'est l'éducation qui peut briser le cercle de la criminalité. Là.
Et voilà.
Une sortie de Bernard Drainville sur le troisième lien qui ne lui apporte pas beaucoup d'appui.
Non, cette sortie à l'égard de son adversaire Christine Fréchette est loin de faire l'unanimité, même chez les partisans de M. Drainville. Certains trouvent que le candidat à la succession de François Legault y est allé un peu fort, nous dit Louis Lacroix.
Mercredi, Bernard Drainville a affirmé que Christine Fréchette est incapable de prendre une décision sur le troisième lien.
Ces tergiversations nuisent à la crédibilité du parti.
Cette sortie musclée contre son adversaire n'a pas plu au député de Beauce-Nord, Luc Provençal, pourtant un allié de Bernard Drainville.
Il ne faut pas attribuer ce titre-là à Mme Fréchette. Là. Mme Fréchette a droit de réfléchir.
Même chose pour le député de Chauveau, Sylvain Lévesque.
Moi, personnellement, je ne parlerai jamais contre un de mes collègues. Ce sont tous des collègues respectables.
Dans le camp Fréchette, on reste prudent. Le ministre Gilles Bélanger trouve cependant la sortie de Bernard Drainville inélégante.
Avoir de l'émotion, c'est correct, mais trop d'émotivité, c'est pas bon.
La députée Suzanne Roy n'a pas lancé la pierre à Bernard Drainville, mais a défendu sa candidate.
On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de débattre.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle, Québec.
On revient encore une fois sur le programme Expérience Québec. Pierre, il y a Jean-François Roberge là, qui tente de rassurer les 6300 employés de la santé.
Oui, on n'a pas fini d'en parler. Il promet, M. Roberge, que les travailleurs de la santé seront sélectionnés dès cette année dans son nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Ça concerne 6300 travailleurs de la santé. M. Roberge a ajouté que le programme de l'expérience québécoise ne permettait pas de donner une telle assurance.
Dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés, les travailleurs de la santé sont priorisés et je m'engage à ce que le gouvernement sélectionne ces personnes, ces travailleurs et travailleuses essentiels qui travaillent dans le milieu de la santé d'ici la fin de l'année 2026, ou ainsi qu'il devrait rassurer les gens.
Et il y a la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, Mme Julie Bouchard, qui est heureuse de cette décision, mais elle dit qu'il faut maintenant s'assurer que ça roule du côté administratif.
Il y a quand même les formulaires à remplir du PSTQ pour pouvoir avoir, je vais l'appeler un passe-droit là, parce qu'il y avait beaucoup de critères. Là. On espère qu'il n'y aura pas d'embûches administratives où il y a des formulaires qui se perdront ou encore ouais. qui seront traités beaucoup trop tard.
On parle de TGV dans la région depuis le début de la semaine, Pierre, le projet qui suscite beaucoup d'inquiétudes.
Oui, à Ottawa, le Bloc, le gouvernement libéral a rejeté d'emblée une motion du Bloc qui réclame que le gouvernement présente des excuses aux expropriés de Mirabel pour les traumatismes vécus par le biais des expropriations qui ont conduit à la construction de l'aéroport de Mirabel.
On se souvient du secteur de Saint-Scolastique.
Exactement, là, ça s'appelait Saint-Scolastique à l'époque, à la fin des années 60. La motion stipule que de telles expropriations ne devraient plus survenir sans consultation publique, acceptabilité sociale et, évidemment, dédommagement approprié. On écoute le député de Montcalm, Luc Thériault.
Quand on veut réaliser des grands projets, il faut d'abord et avant tout le faire en respectant l'être humain, en se déguisant pas, comme le ministre des Transports le fait, en promoteur, en peddler, M. le Président. La confiance, ça se mérite. Pour mériter la confiance, il y a un préalable, et c'est la reconnaissance des malheurs, la reconnaissance des peines, la reconnaissance de comment on a pu porter atteinte à la vie de ces gens.
Et puis d'autre part, les maires de Mascouche et Terrebonne exigent des consultations publiques.
Oui, ils veulent éviter justement un deuxième Mirabel. Le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, affirme que c'est un corridor de 10 km de large qui est analysé actuellement par la compagnie Alto, soit le tiers de la municipalité. Il exige évidemment des consultations pour les citoyens.
Lorsqu'on aura dans une deuxième mouture une proposition avec peut-être un tracé qui va être plus cintré, on veut que l'entreprise donc consulte nos citoyens parce qu'effectivement, il y a eu par le passé des expropriations qui ont été faites pour des grands projets au niveau du fédéral là, qui ont amené à des conséquences majeures pour l'aménagement des territoires des villes. Puis on veut que ça se fasse dans la transparence puis dans la plus grande consultation possible.
Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Pierre Jubinville.
Bonne soirée.
Il est 16h39.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel. CFNG.
Lanaudière PM. Affaires judiciaires et policières.
L'actualité qui influence la Sûreté du Québec dans la production de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Là, depuis ce matin, il est possible de visionner une vidéo qui s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans et qui porte là, sur divers aspects de la criminalité. Ce sera pas la seule, comme l'a expliqué à François Morin la sergente Sabrina Carbonneau de la Sûreté du Québec.
Sergente Sabrina Carbonneau de la Sûreté du Québec, votre organisation vient de lancer une nouvelle vidéo sur le web, sur YouTube, qui s'adresse cette fois directement aux jeunes de 12 à 17 ans. On parle beaucoup de criminalité. C'est un dossier fort d'actualité. Et ça, ça a été fait. En fait, on est allé rencontrer des jeunes dans les écoles pour s'informer de leur perception, si on veut.
Oui, c'est ça. Donc, on avait vraiment une volonté de créer un outil pour les jeunes, mais fait par les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on est allé sous forme de Vox Pop. Puis, le message est vraiment plus fort là, quand ça vient de eux-mêmes. Donc, on va leur poser des questions là, pour qu'ils viennent donner leur perception des choses, favoriser la réflexion, puis parler un peu des conséquences aussi d'adopter des comportements responsables. Puis, dans le fond, justement, là, ça vient des jeunes entre eux. Puis après ça, la policière en milieu jeunesse, à la fin, bien, est là pour clarifier les réponses puis venir préciser là, certains sujets. Ouais.
Ça demeure quand même des sujets qui sont universels. Ça s'adresse aux jeunes là, de toutes les régions, je comprends bien.
Oui, c'est ça. Comme notre première capsule qui parle de la violence armée, bien, la violence armée, c'est partout au Québec. Là, on le voit pas seulement en milieu urbain. Ça touche vraiment le milieu rural aussi. Donc, l'ensemble du Québec, c'est destiné aux jeunes. Mais après ça, là, ça peut être facilement repris pour ouvrir la discussion, par exemple, avec les parents. Ça peut être repris, les capsules aussi, utilisées en prévention à l'école. Donc, ça permet là, d'être efficace comme prévention auprès de tout le monde. Donc, c'est l'affaire de tous. Si on se met tout le monde ensemble, là, ça fait vraiment une meilleure différence.
Bon, alors, vous nous devancez dans mes questions. Ça devient finalement un outil pédagogique.
Oui, c'est un outil pédagogique là, de plus qu'on a au niveau de la prévention de la criminalité. Comme j'ai dit, là, ça peut être utilisé autant en milieu scolaire, ça peut être par les policiers aussi. Donc, ça fait différent des dépliants ou une présentation en classe qui est faite seulement par le policier. Donc, c'est différent. Puis, on voulait aller vraiment rejoindre les adolescents là où ils se trouvent déjà, donc sur les plateformes numériques en ligne au quotidien, ouais.
On comprendra aisément, sergente Carbonneau, que c'est à l'usage qu'on va voir si les vidéos ont des impacts réels, soit dans les comportements des jeunes ou même au niveau de la prévention comme telle de la criminalité. Quels sont les sujets qui seront abordés dans les prochaines vidéos?
Oui, c'est ça. On va leur parler des fraudes prochainement dans une prochaine capsule qui va sortir parce que les fraudes, c'est pas seulement destiné aux adultes. On a beaucoup de victimes jeunes. Qui sont fraudés. Donc, on va aller leur parler, par exemple, des achats en ligne, donc des fraudes amoureuses, des fraudes à l'investissement. Puis sinon aussi, on a une capsule qui va s'en venir concernant les wax pen, la sextorsion. Donc, on a plusieurs sujets à venir. Donc, j'invite les jeunes là, à nous suivre sur notre chaîne YouTube de la Sûreté du Québec pour... venir voir les différentes vidéos qui vont sortir. Ouais.
Il y a un sujet que vous venez d'effleurer que je veux aborder en terminant, c'est la pédosexualité dans le district judiciaire de Joliette. De façon très fréquente, on voit justement ce genre de dossier apparaître devant les tribunaux. Alors, j'imagine qu'il en sera question lors de ces prochaines vidéos qui seront produites.
Oui, donc on va parler de tout ce qui est sextorsion, pornographie juvénile. Donc, ça va être une de nos capsules également, oui.
Bon, ben voilà, c'était la sergente Sabrina Carbonneau de la Sûreté du Québec. Donc, nouvelle capsule de sensibilisation pour les ados là, sur la criminalité, les 16h44. Dans un moment, on parle du Parti libéral du Québec avec Jacques Plante.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux. Et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur, à Notre-Dame-de-Lourdes Dépanneur Gabi, les Délices de Lourdes, à Sainte-Élisabeth Dépanneur chez Napole, à Saint-Félix-de-Valois Dépanneur Estelle, Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, Dépanneur Proxy Extra et Marché IGA Rainville, à Saint-Jean-de-Mata Supermarché Métro, l'Expert Dépanneur, Marché Express Ultramar, Dépanneur du Lac-Noir et à Saint-Damien, Marché Métro Imri, Dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
La Semaine nationale de la prévention du suicide se déroule jusqu'au 7 février. Cette année, le thème régional « Ensemble, tissons l'espoir » circulera dans tout Lanaudière. Tu es inquiet pour un proche ou tu penses toi-même au suicide? Joins en tout temps un intervenant du Centre de prévention du suicide de Lanaudière au 1-866-APPEL. 1-866-277-3553.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Nous sommes fiers de faire partie de votre communauté depuis maintenant 5 ans. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien. Pour célébrer, nous vous offrons 4 changements d'huile gratuits à l'achat d'un Rogue et 2 changements d'huile gratuits à l'achat d'une Sentra, d'un Kicks ou d'un Kicks Play. Chez Joliette-Nissan, ce qui compte le plus, c'est vous. Merci de rouler avec nous depuis 5 ans et pour les années à venir.
Cet hiver, viens vivre Saint-Zénon-sur-Glace. Le lac Saint-Louis et plusieurs sites à Saint-Zénon s'animent avec une programmation qui bouge. Bingo, mini-potes sur glace, 5 à 7, lapins, bière et saucisses sur le lac, randonnée au flambeau, motoneige antique, crêpes et café country, tournoi de pêche, activités familiales, initiation à la pêche blanche pour les jeunes, patins party 80s et même sculpture sur glace. Animation, musique, ambiance festive, restauration sur place à certains moments et souvent, ça se passe directement sur le lac. Pour connaître tous les détails, les coûts d'inscription et les mises à jour, suivez la page Facebook Festival Saint-Zénon-sur-Glace.
Au concert du dimanche à CFNJ, Morane. Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h, à CFNJ.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, je t'entendais tantôt à l'ouverture de l'émission en disant « Quelle belle journée avec le soleil, ça fait du bien. »
Oui, effectivement. Certainement, mais il fait frette.
Oui.
Bon, les petits amis de Pablo Rodriguez qui ont quitté le Parti libéral, ils sont 8 d'ailleurs de ses amis d'avoir quitté le parti.
On avait fait allusion hein, quand la course s'est lancée, qui était arrivé avec sa gang de fédéraux, avec son monde.
Mm-hmm.
Et moi, je me souviens d'avoir fait comme commentaire en ondes à ce moment-là. Ça ne doit pas faire l'affaire des gens à Québec comme tel.
Ben ouais, c'est certain.
Parce que oui, tu peux amener des gens pour te donner un coup de main là, à titre bénévole qui sont là avec de bonnes intentions.
Ouais.
Mais là, d'arriver puis de nommer ces gens-là à des postes clés, hein, c'est vraiment là, ce qu'on peut appeler le bunker là, qui se fait.
Ce sont des gens qui sont partis d'Ottawa et qui ont suivi
il faisait partie
à ce
de son
moment-là
cabinet.
Pablo Rodriguez. Oui, ouais, ouais, c'est ça. On parle, entre autres, de l'ex-directeur des communications de son cabinet, Jacques Martineau. Bon, on a connu Geneviève Hinze, bien entendu, parce qu'elle a été congédiée par Marois Risky. Il y en a quelques autres également, là, un nombre d'entre eux.
Ils sont exactement 8 qui ont décidé de quitter l'organisation. Et quand je dis les 8, là, ça inclut Geneviève Hinze.
Oui.
Donc, les 7...
Ben, elle a été congédiée.
Oui, c'est ça. Mais les 7, c'était des départs volontaires,
oui,
si
oui,
on veut.
Oui, c'est ça.
Et elle a été congédiée. Puis là, on sait que c'est devant les tribunaux. Là, il y a une poursuite... Qui est entamé auprès de Marois Risky.
J'imagine qu'à Québec, au Parti libéral, on devait être bien content de les voir partir. Là.
Ben, ce qu'on donnait comme information, parce que là, c'est réglé, ces gens-là sont partis, ils sont plus là, on disait que la vision de Pablo comme chef du parti, ça correspondait pas absolument à ce qui était donné comme signe. Donc là, on va peut-être plus se replacer avec... notamment Charles Milliard, là.
Mm-hmm.
On lit pas dans le secret, mais ce qui s'annonce de plus en plus, c'est le 12 février ou 13, là, qu'on disait, oui. Là, que ça se termine.
Mais il y a une culture de parti aussi qui est en quelque part à respecter, parce que si tu respectes pas la culture d'un parti, ben, pars-toi un autre parti politique.
Oui, puis on l'a souvent dit, là, ça s'est dit par les autres partis, évidemment, concernant le Parti libéral comme tel, que ce soit le volet d'Ottawa ou celui de Québec, que Québec, c'était la succursale d'Ottawa, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
Non.
Un peu comme on a fait avec le PQ et le Bloc. Là.
Ouais.
En disant la succursale l'un de l'autre,
c'est pas la même chose.
C'est pas tout à fait vrai. Il faut regarder ça plus près.
Ouais.
Mais moi, ce qui me... Je vais dire, on est en onde à la radio, ce qui m'a des piles, pour dire que ça me met en hisse, là, c'est que quand je regarde ça, c'est que ces gens-là ont quitté le cabinet fédéral pour suivre Pablo à Québec.
Ils ont eu des sous pour ça, je pense. Hein?
Ils ont eu des indemnités de départ. Il y a la valse des 1000 $ qui se sont donnés quand la course a foiré comme telle.
Ouais.
Hein? Et là, Il y a même...
On parle d'indemnité de départ grâce au pouvoir discrétionnaire de ministre de Pablo Rodriguez. Qu'est-ce que c'est que ça, le pouvoir discrétionnaire?
C'est là-dessus que j'en venais.
Ouais.
Il y a eu les 1000 $. D'ailleurs, il y a des militants libéraux du Québec qui, eux, ont demandé, ont déposé carrément une plainte à Élections Québec en disant est-ce qu'ils devraient déclarer ça comme dépense électorale, dépense de campagne à la chefferie, si tu veux. Ça, c'est les 1000 piastres. Ce que tu viens de faire allusion, indemnité de départ discrétionnaire au ministre, là, c'est pour vous montrer la saine gestion qui peut exister à Ottawa, l'élasticité de la réglementation. Parce que quand on parle de discrétionnaire, là, ça veut dire que d'un un à l'autre, là, ça n'a pas été le même montant et personne ne le sait. Mm-hmm. Moi, je fais un discrétionnaire avec toi, je peux te donner X 1000 $. Je fais un discrétionnaire avec Pierre Jubinville. Je disais, c'est égal discrétionaire. Parce
c'est 50 piastres.
Tu sais, exactement. Mm-hmm. C'est ça, c'est caché. C'est... Mais ça fait cet argent-là, il est après nous. C'est des deniers publics.
Certainement. Oui, mais on ne sait pas c'est quoi le montant en tant que tel. C'est-à-dire, pas
c'est
le
discrétionnaire.
Montant, justement, discrétionnaire. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse pas de savoir, c'est qu'un tel a eu 1000 $ puis l'autre en a eu 500. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de savoir quel est le montant global, le montant discrétionnaire là, qu'on est venu pigé dans nos poches.
Exactement. Et ça démontre, comme je te disais, l'élasticité de ce qui peut se passer à Ottawa. Je donne l'exemple. Moi, je décide de quitter comme ministre. J'étais à Ottawa parce que je vais me présenter chef d'un parti politique à Québec. Je pars avec ma gang. J'ai du discrétionnaire. Donc, discrétionnaire, ça fait partie du budget du ministre. Le premier ministre te demande de me remplacer, de prendre mon poste de ministre. Tu fais quoi avec le budget, là? Moi, si je te l'ai quasiment vidé
ben
avant
oui,
de partir...
Ben oui, tu l'as bouffé.
On va te donner une nouvelle enveloppe.
Ouais, c'est ça.
C'est que ça, la valse des milliers de dollars puis qui se perdent, incroyable.
Mais pourquoi tu aurais un budget discrétionnaire si tu quittes, justement? Tu quittes, ouais. Tu dis, je m'en vais, là, bye-bye. Je m'en vais à Québec me présenter pour le Parti libéral. Pourquoi tu as un budget discrétionnaire pour donner des enveloppes à tes amis?
Personnel.
Mais voyons,
ouais.
Voyons, exact. Ça marche pas. Ça marche pas. Et c'est quoi ce montant-là, le montant discrétionaire? Moi, je te dis, je suis sûr qu'on parle au-dessus de 10 000, 20 000, 30 000.
Ben, moi, en tout cas, je serais pas surpris de voir qu'il y a beaucoup de zéros.
Ouais,
avant
c'est
le point.
C'est,
avant le point.
En tout cas, moi, je trouve ça fâchant parce que ce sont des deniers publics. On est venu chercher ça dans nos poches.
Et c'est ça qui mettait un peu le feu aux poudres quand il est arrivé avec sa clique, dans le fond, au niveau de Québec, et que certains disaient, les fédéraux qui débarquent, ils arrivaient avec la culture d'Ottawa. Là.
C'est ça.
Hein?
Oui.
Je te dis pas qu'à Québec, il se passe pas des choses catholiques. Là,
ça en vient à ce que je te disais tout à l'heure, la culture d'un parti politique.
Ouais.
La culture du parti politique, du parti libéral, fédéral et celui du Québec, c'est pas la même chose là, du tout. Là. C'est pas pareil.
Tu sais, moi, j'ai surtout travaillé du côté d'Ottawa. Là. Je connaissais les règlements,
au bloc,
financement et tout ça. Au niveau de Québec, là, y a peut-être des différences, mais dans l'ensemble de tout ça, c'est du fonds public, c'est de l'administration publique. Il y a quelque chose, en quelque part, qui se ressemble. Et c'est ça qui me fait croire, quand Mme Haynes dit que Marois Rizki, parce que toutes ces choses-là, là, c'est de là, pour moi, que vient le vocabulaire de fling-flang. Et quand Mme Haynes dit, non, ce que Rizki a dit, c'est pas vrai, puis moi, je suis porté à donner beaucoup de crédibilité à Mme Rizki, parce que...
Je pense que toute la population du Québec aussi.
Haynes, là, tu sais, à la lumière des infos qu'on a là, là-dessus, là, Haynes, elle arrivait avec la culture d'Ottawa.
Oui.
Alors, elle cherchait à prendre des budgets de l'Assemblée nationale, à payer quelqu'un à mi-temps pour travailler dans le dossier-là, mais d'aller travailler aussi à la campagne de Rodriguez.
Et Geneviève
Haynes,
attention, Geneviève Haynes connaît très bien la loi.
Et moi, quand...
Elle voulait jouer avec la loi.
Ben, elle cherchait les failles dedans.
Mm-hmm.
Et c'est ça que Rizki n'a pas accepté. Et moi, quand je voyais en point de presse Pablo, je termine avec ça, Claude, qui disait qu'il n'était pas au courant de rien, j'ai pas de poignée dans le dos.
Moi aussi, j'ai bien de la misère avec ça. Merci, Jacques.
Salut.
Je salue et remercie les collaborateurs à l'émission. Aujourd'hui, Mathieu Bélanger, François Morin, Pierre Jubinville et Jacques Plante que vous venez d'entendre ici à Claude Fournel. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, on n'est pas là. On est en congé. Ce sera Ricky D qui vous accompagnera dans Prélude au week-end. Et manquez pas Nicolas Bellemare qui s'amène bientôt, dans quelques minutes, avec le 5 à 7 trad de CFNJ. Salut, bye-bye, à lundi, 16h.